nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et nous sommes mardi matin à 11h. Aujourd'hui, nous allons avoir le récit d'une saga liée aux choses les plus dynamiques et les plus performantes qui existent dans notre société, comme le plateau de la Défense qui semble avoir vécu, et je ne sais pas comment il va survivre maintenant que tout le monde fait du télétravail, mais qui fut un grand endroit de la prospérité française post-gaulienne. Et donc nous allons avoir droit à la saga de BT93. Mais avant cela, nous avons reçu un fichier à propos d'une exposition qui a lieu à Max Dormois, d'une pastelliste, d'une dessinatrice extrêmement douée qui s'appelle Anne-Laure Drézé. Elle nous a envoyé un fichier qui raconte sa vie et le lieu. Je vous mettrai tous les renseignements pratiques pour aller à son exposition. À toi, Anne-Laure.
Je m'appelle Anne-Laure Drézé, je suis dessinatrice pastelliste. Le dessin, ce n'est pas un loisir, c'est une passion. C'est plus qu'une passion, c'est une nécessité. J'invite les auditeurs à venir voir mon travail du 3 au 28 janvier au centre Paris-Anime-Hébert, 9 rue Tchaïkovski dans le 18e arrondissement à Paris. Le vernissage aura lieu jeudi 5 à 18h30. J'y signerai mon dernier gravzine. Je dessine depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 53. Il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Enfant, je fabriquais seul des maquettes, des villes en carton, je faisais de petites bandes dessinées, je fréquentais les cours de dessin au centre de loisirs. J'ai commencé à dessiner et j'ai décidé de m'orienter vers les arts plastiques. À 16 ans, je prends des cours de modèle vivant, cours que j'ai suivis pendant des années. Je voulais être peintre et rien d'autre. J'ai intégré l'école des arts appliqués du Perret et j'ai étudié les arts graphiques un peu par hasard. J'ai poursuivi aux arts décoratifs de Strasbourg. Je suis graphiste depuis 30 ans. C'est mon gagne-pain. J'ai été passionnée par le graphisme d'utilité publique. Parallèlement à cette activité, je n'ai jamais cessé de dessiner. En 1990, je fais une rencontre importante. Je faisais partie d'un groupe de dessinateurs qui m'ont fait découvrir les gravzines. Ce sont des fanzines graphiques. Frédéric Poincelet, qui s'occupait de la structure Lune Produc Art Contemporain, Sébastien Morligum, qui éditait des gravzines chez S de l'Art, Franck Garcia, édition La Pomme de Discorde, et Fredox, édition Stronks. Je dessinais quotidiennement à l'encre avec une plume atome, le soir après le travail, le week-end et pendant les congés payés. J'ai tenté d'illustrer le démon de Selby, lecture qui m'a beaucoup marquée à l'âge de 24 ans. Je dessinais mes proches, ma famille, mes amis. Une grande place est laissée à l'enfance. L'enfance, le jeu, le rêve et l'insouciance tout à la fois. Ces mondes perdus, lointains, enfouis et que nous cherchons à reconquérir. Cette ivresse d'être à l'envers quand nos parents nous faisaient virevolter dans les parcs. La beauté est un baume, un réconfort, elle me fait du bien. Il y a aussi les terreurs, le clivage avec le monde des adultes, mon incompréhension des autres. J'ai trouvé mon inspiration dans ma famille. J'ai grandi au sein d'une famille protestante, mon père était britannique. Souvenir de vacances passées dans les jardins anglais. Ces jardins qui sont mon Éden transparaissent dans mes dessins. Ces dessins sont tendres, mais il n'y a pas que cela. Protestantisme, intranquillité, terreur de l'enfance, inquiétude et méchanceté. Le jeu et l'inquiétude, tout est là. Le dessin m'a servi à raconter mes démons. Les rêves assez sombres dont j'étais assaillie à un moment donné m'ont servi de matériel. Je remettais en scène le rêve, des acteurs posaient, je photographiais les scènes pour les dessiner ensuite. Trois gravzines ont été éditées entre 1994 et 2000. les enfants des monstres et tout ça, le jardin botanique et les mauvaises herbes. Édité en photocopie couleur à 60 exemplaires, ils sont épuisés. Ces gravzines étaient en vente au Regard Moderne où j'ai exposé pour la première fois en 1999. Jacques Noël, le libraire du Regard Moderne, me devinait mieux que moi-même. Je décrivais avec de vagues mots et une grande timidité les univers qui m'inspiraient et je sortais avec des pépites. J'ai découvert grâce à Jacques Noël les photographies de Sally Mann, Jeff Wall, Bernard Faucon, les Clayton Brothers, David Sandlin, la littérature américaine, Selby, Jim Harrison, l'école du Montana et bien d'autres. Depuis toujours, je parcours les expositions. Je me suis nourrie de Frida Kahlo, des pré-raphaélites britanniques, Sir John Everett Millay, des expositions d'art brut à la Halle Saint-Pierre, celles de grande qualité à la Maison Rouge, ou encore Jardin Infini au centre Pompidou-Metz. Plus récemment, j'ai été médusée par l'exposition Les Contes Cruels de Paula Rego en 2019. Certains de mes dessins ont été édités dans des collectifs. Il y a eu un cheval sans tête chez Amok Éditions. Une série d'autoportraits tranchants a été éditée par Kérosène en 2001, collection Bazar. Un collectif féminin édité au Dernier Cri, orchestré par Caroline Suri, Vajjana Mushrooms. À ce moment-là, nous dessinions à quatre mains avec Anne-Frédérique Maurer, une dessinatrice dont j'admire beaucoup le travail. Vertige Vision, un collectif dirigé par Captain Caverne, et tant d'autres qui devraient avoir leur place ici. En 2004, mes dessins ont été publiés dans l'Imbécile, mensuel dirigé par Frédéric Pajac. Puis il y a eu une belle série de portraits ex-voto, édités au Cahier Dessiné en 2006. Je dessine pour raconter des images enfouies dans ma mémoire. Relecture d'instants passés et transformés. Jardins, plantes, animaux hybrides, anthropomorphismes, plumes et végétaux. Par moments, je dessine frénétiquement. Il y a une sorte d'urgence à raconter. Le temps dont je dispose après mon rôle de maman puis le travail est précieux et court. C'est ce qui me pousse à l'urgence. En 2018, j'ai débuté une série de dessins de filles qui volent ou tombent comme Alice. On ne sait si les personnages virevoltent ou se cassent la figure. On peut les retourner dans tous les sens. Inspiré par les contes burlesques où il y arrive des histoires épouvantables et grotesques, les Nursery Rhymes et John Tenniel qui a si brillamment illustré Alice au Pays des Merveilles. Un gravzine merveille a été édité en 2018 par Emmanuel Pidou au sein de la collection Crocuta Crocuta. Merveilleuse collection et série dont le principe est de n'éditer que des femmes. Je dessine au fusain et à la pierre noire. M'inspirant de poupées et masques que je mets en scène, je compose des scénettes sur format raisin, où je mêle réalité et fiction, rêverie et cauchemar. Je cherche le point de rupture, un malaise, le basculement. Je photographie l'enfance, les goûters d'anniversaire de mon fils, les masques, maquillages, les grimaces, joie et les colères. Il y a 10 ans, j'ai voulu apprendre la couleur. J'ai acheté une petite boîte de pastel. Ce médium m'a tout de suite plu. À la croisée du dessin et de la peinture, les teintes sont très lumineuses. Je suis autodidacte. J'ai expérimenté le plein air pour la première fois vers 2015. Depuis, je n'ai plus arrêté. Mon intérieur m'ennuie. L'extérieur, la nature me font faire ce que je n'ai pas prévu de faire. La lumière toujours changeante, l'urgence, je n'ai pas le temps de faire un beau dessin. Rester 3 heures sur un même lieu est un espace d'aventure formidable. Le vent dans la figure, lumière toujours changeante, l'eau qui m'attire beaucoup, l'onde et ses mouvements, les rencontres fortuites, et surtout cet inconfort que le plein air procure. J'exposerai pastel et fusain du 3 au 28 février au centre d'animation Hébert, dans le 18e arrondissement. Le rez-de-chaussée est très lumineux, c'est un endroit absolument parfait pour accrocher mes pastels qui nécessitent de la lumière. Vous pourrez également y voir mes grands fusains réalisés récemment. Je remercie particulièrement Yves Tanré qui a écrit un texte pour moi dans les Cahiers dessinés et qui me donne l'occasion de prendre la parole ici. Et Radio Aligre, bien sûr.
Merci Anne-Laure et Drézé. Et donc, nous serons tous jeudi à la rue Tchaïkovski dans le 18e arrondissement. Et maintenant, nous allons avoir le plaisir d'entendre la saga de BT93. À vous, BT93.
Bonjour Yves, et merci de m'accueillir sur Aligre FM, qui est une des premières radios libres. C'était au début des années 80, c'est ça,
je c'est crois, tout sous, à sous fait, Mitterrand. Oui, c'est 81.
Alors la saga, donc, on va commencer par le début, hein, quand j'étais tout petit. Je partageais la chambre de mon frère, et, qui avait 5 ans de plus que moi, donc, qui était mon frère aîné, pour lequel j'éprouvais une admiration sans borne. Et il me faisait donc découvrir un peu ses découvertes musicales. Et lui écoutait, à l'époque, c'était dans les années 70, donc il écoutait Genesis, Neil Young, les Beatles, etc. Et donc moi, ça m'a toujours passionné. Je me suis dit que je voulais être musicien, donc vraiment très tôt. Et à l'âge de 5 ans, j'ai choisi de faire du piano. J'étais le seul dans ma fratrie, parce que mon grand frère et ma grande sœur faisaient plutôt du dessin. Et donc moi, j'ai choisi le piano. Et voilà, donc j'ai commencé à faire du piano. Et après, je me suis quand même posé la question assez tôt, je me rappelle, est-ce que la vie de musicien est finalement une vie enviable ou pas ? Parce que mon frère écoutait aussi Léo Ferré. Et dans Léo Ferré, il y a une chanson qui s'appelle « La vie d'artiste », qui est où Léo décrit un univers assez glauque, qui n'est pas forcément très enviable. Où, voilà, à la fin d'un concert, il est triste, il y a du rimmel qui coule... il a toute une bande de parasites autour de lui qui doit nourrir après, hein, qui doivent manger sur son addition, comme on dit. Donc voilà, donc, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est bien ou pas d'être musicien ? Et après, bon, bah, je me suis dit quand même, il y a quelque chose qui est plus fort que tout. Je voyais mon père aller au travail le matin, se lever tôt, se raser, mettre sa cravate et tout ça. Et moi, je me disais, moi, je ne veux pas faire ça, je veux échapper à l'esclavagisme du travail. Et donc, je pense qu'être musicien ou artiste en général, c'est un des moyens d'échapper à cet esclavagisme. Voilà, donc j'ai poursuivi ce but. J'ai fait du piano assez longtemps. J'ai commencé à composer mes premières chansons vers 10-12 ans. Et tout allait bien. Le seul hic, je pourrais dire, c'est que j'étais aussi premier de ma classe à l'école. Et donc, je crois que j'ai toujours été premier à toutes les compositions, sauf deux fois, je crois. Je m'en rappelle encore les deux fois où j'étais pas premier. Et donc, bon, il y avait ce problème aussi que j'étais destiné à faire des études. Et après, la question, c'est comment on fait pour devenir artiste si je suis aussi bon à l'école. Et donc, je me suis posé plusieurs questions. Il fallait que ça vaille le coup. Donc, d'abord, est-ce que j'avais du talent ? Et première question, c'est très difficile de répondre, de parler de soi. Mais si je voulais un petit peu analyser mon cas, on va dire que j'étais bon en composition. J'avais une très bonne oreille. J'étais capable, par exemple, de rejouer n'importe quel morceau que j'entendais au piano. Et les points faibles, j'avais une voix qui n'était pas terrible. J'avais la voix d'Étienne Dao, on va dire, ou de pire, de Benjamin Biolay. Quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de voix. Donc ce n'était pas génial, mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être rédhibitoire, hein, finalement, puisqu'ils ont fait carrière. Et autre point faible, je ne savais pas jouer de la guitare. Et moi, j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare. J'ai essayé, j'ai acheté une guitare et tout ça, mais ça me faisait vraiment trop mal aux doigts. Et je pense que je n'étais pas assez masochiste vraiment pour continuer. Et donc, voilà, ça m'aurait aidé dans les arrangements. Mais comme je ne savais pas jouer de la guitare, je me suis un peu orienté quand j'étais adolescent, donc vers l'âge de 17-18 ans, plutôt vers de la musique électronique. Qui était un peu new wave ou de la synth pop, comme on dit maintenant, donc uniquement avec des machines et un ordinateur. Là, peut-être j'ouvre une petite parenthèse, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'oriente vers un style ou un autre ? Parce que là, on voit dans mon cas, c'est parce que je ne savais pas jouer de la guitare que j'ai fait de la musique électronique. Et ça m'a toujours, c'est une réflexion que j'ai toujours eue, par exemple, sur. J'ai côtoyé, parce que j'ai fait un stage à l'IRCAM. De 6 mois à une époque, et j'ai côtoyé des musiciens qui faisaient de la musique expérimentale. Et en fait, moi, j'ai toujours eu le sentiment que ces gens faisaient de la musique expérimentale tout simplement parce qu'ils étaient incapables de composer un bon morceau de musique. Et je pense que c'est peut-être un peu la même chose. Après, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'ai été aussi dans le cinéma pendant une dizaine d'années. Et j'ai vu, donc j'ai côtoyé aussi des réalisateurs qui faisaient des films d'auteurs un peu expérimentaux. Et je me suis toujours dit, mais ils font ça, pourquoi ? En fait, tout simplement parce qu'ils ne savent pas peut-être faire un film plus commercial et parce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir raconter une bonne histoire. Quoi. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et je pense que dans l'art abstrait, c'est peut-être on doit retrouver ce même genre de phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont... Alors peut-être ce qui est un tout petit peu différent, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués, y compris dans l'art abstrait, pour faire du figuratif. C'est-à-dire qu'ils dessinent vraiment très très bien, comme Léonard de Vinci. Mais comme il n'y a plus vraiment de marché... Tu pourras me contredire si je dis une bêtise, il n'y a plus vraiment de marché pour l'art figuratif, j'ai l'impression. Donc finalement, ils font de l'art contemporain, de l'art abstrait, parce que finalement, ce sont des considérations mercantiles, quelque part, qui les ont poussés vers ce style-là. Donc, en conséquence, peut-être le choix d'un style n'est lié qu'à des incapacités de faire autre chose ou à une réflexion mercantile. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Et à l'esprit de l'époque aussi. Oui. Tu vois, comme j'ai travaillé, j'ai fait la monographie d'un peintre né en 1930, mort dans un accident de voiture en 1965. Donc c'était le règne de l'abstraction dans les années après-guerre,
voilà.
45, 55. Tout est abstrait. Et donc, ils font tous de l'abstraction et ça finit par dégouliner dans une espèce de masse insipide de gens qui ont complètement disparu. Et donc, il y a des modes qui sont quand même très fortes. Puisque tu parles d'informatique, c'était quand même, par exemple, moi qui principalement écrit, le traitement de texte a changé ma vie, et c'était quand même un pur bonheur. Alors je pense qu'il faudrait nuancer, il faudrait travailler sur des cas précis, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, si je pouvais chantonner si j'avais la grâce pour chantonner, si j'étais Moustaki et que j'étais capable de faire une chanson... comme ça, en chantonnant, c'est clair que ça me plairait beaucoup, quoi. Quand tu as
un français, peut-être fait une carrière de chanteur.
J'aurais adoré. Et puis, tu as Mort Schumann, par exemple, qui fait une chanson pour Elvis Presley, Mort et juif, et Elvis Presley est antisémite. Mais c'est quand même assez... J'aime assez l'idée de la légèreté, de la grâce et tout ça. Et il est clair que dès que tu rentres dans ce domaine expérimental... La légèreté, en général, manque, mais il y a des exceptions. Mais c'est en général assez laborieux, à la fois dans la fabrication et dans la réception.
Alors voilà, donc j'ai quand même décidé de tenter le coup et d'essayer d'être artiste.
Tu veux qu'on écoute un morceau de musique?
Ah ben allons-y, oui.
On va écouter un morceau de musique de BT 93.
Moi c'est BT93, exactement ce que t'entends. Moi c'est BT93, exactement ce que t'attends. Des synthés, en veux-tu, en voilà. 93, c'est une grande année pour moi. Seul dans ma chambre le soir, je fais un tabac. Fort de mon bac plus, boosté à 2 mégas. Le monde du travail, je connais que ça. Dans l'RER, pour la défense, pas la joie. J'en fais des airs, je rêve de ne plus faire que ça. Seul en costard, à la défense, moi j'y crois. Moi c'est BT93, exactement ce que t'entends.
On dit les artistes, c'est pas les gens comme toi.
Moi c'est BT93, exactement ce que t'attends.
Moi je dis, manque une dimension aux artistes qui ont jamais bossé dans un bureau.
La hiérarchie, si je l'ai dans le baba. J'ai créé ma boîte, la hiérarchie c'est moi. Les banquiers flippent sur la toile, y'a ma voix. S'ils me voient en slip, vont tomber dans le coma. Au coin de mon cœur, au cœur de mon cerveau-là. Cette bête d'album parfois s'empare de moi. Gaffe à l'engouement si tout le monde vient gaga. Moi c'est BT93, exactement ce que t'entends.
Mais comment j'échappe à l'esclavagisme du travail, moi si je suis pas artiste.
Moi c'est BT93, exactement ce que t'attends.
Faites chier, vous m'obligez à créer ma boîte, entrer en bourse, gagner des millions.
Un jour aussi, je ferai du cinéma. D'abord de la prod et ensuite de la réa. Des courts-métrages qui feront une razzia. Puis je ferai mon long, mais pas celui qu'on attendra. Mon film défile dans des petites salles sympas. Pas de télédif, pas de télérama. Mes parenthèses, c'est mieux que ce que tu crois. Si tu grattes un peu, tu comprendras. C'est BT 93, exactement ce que t'entends.
Parenthèse, c'est un film provoque et mélancolique.
Moi c'est BT 93, exactement ce que t'attends.
Je vous le conseille, j'ai vu pas mal de fois, il est assez cool comme film. Il paraît que bosser dans un bureau, ça détruit ton potentiel artistique.
BT 93.
N'importe quoi, les grands artistes sont forcément universels.
BT 93.
Ils peuvent bosser dans un bureau, boire du champagne, écrire une chanson avec King Ju. Ouf, je vais pouvoir à nouveau dormir tranquille.
Moi c'est BT 93, exactement ce que t'entends.
BT 93.
Moi c'est BT 93, exactement ce que t'attends.
Jamais bosser dans un bureau.
Moi, c'est BT 93, exactement ce que t'attends.
Il manque une dimension aux artistes qui n'ont jamais bossé dans un bureau.
BT 93, exactement ce que t'entends.
Il manque une dimension aux artistes qui n'ont jamais bossé dans un bureau.
Exactement ce que t'attends.
BT 93.
Et donc voilà, c'est très très dense en contenu, comme vous avez pu le remarquer, tout est dit, c'est formidable. Et j'ai aussi bossé dans le cinéma expérimental, donc je suis assez sensible à l'allusion sur le cinéma, et des fois j'étais quand même très fier de moi d'avoir tenu le coup, de rester pendant toute la séance. Et j'étais prof dans une école des beaux-arts, et quand j'avais des étudiants qui parlaient tout le temps, qui me faisaient chier, je les menaçais de passer un de ces films. Et tout le monde se taisait et était très obéissant après, parce que la menace avait une certaine effectivité.
Elle était très forte.
À toi, BT 93, raconte-nous ce qu'on vient d'entendre.
Alors donc, dans cette chanson, finalement, elle résume un peu un tout. Elle a été composée, pour la petite histoire, la musique, et c'est pas moi qui fais la musique, c'est Julien Barthélémy, alias King Ju, qui a fait la musique, qui est celui qui a créé le groupe Stupéflip. Et qui est un ami, et dont j'ai eu la chance aussi de produire le dernier album qui est sorti au mois de septembre, la Stup Forever. Voilà. Alors, donc, dans cette chanson, je dis il manque une dimension aux artistes qui n'ont jamais bossé dans un bureau. C'est une boutade, évidemment, c'est pas à prendre au premier degré. Il y a évidemment plein de façons de devenir artiste. Moi, c'est juste un peu une réaction par rapport à un certain ostracisme dont j'ai été victime quand j'avais une vingtaine d'années. J'avais une copine qui faisait du théâtre et qui invitait souvent des copains ou des copines à elle pour répéter des pièces à la maison, etc. Donc moi, déjà, j'étais obligé de quitter le salon, d'aller dans ma chambre. Et en plus, après, quand il y avait l'heure un peu de boire un verre, il y avait des discussions et tout. Et moi, j'étais pris pour un con parce que je n'étais pas artiste, parce que moi, j'avais une vie où je travaillais, j'étais un salarié bureautisé, quoi. Et donc, dans toutes les discussions qui tournaient autour du rôle éminent de l'artiste dans le monde, moi, je n'avais pas mon mot à dire. Donc, c'est en réaction à cet ostracisme, voilà. Et la première fois que j'avais dit ça, en fait, c'est au début des années 90. J'avais un ami qui était photographe et peintre, qui s'appelait Michel Canville. Je parle au passé parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et qui avait fait une exposition de ses dessins au bateau Lavoir, et qui m'avait demandé de faire les textes de l'exposition. Et moi, donc, à l'époque, au lieu de faire des textes qui parlaient de ses dessins, j'avais fait des textes un petit peu humoristiques sur le rôle de l'artiste, parce que c'est quelque chose sur lequel j'avais vraiment des réflexions à l'époque. Je peux vous en lire un des textes, par exemple. Y en a un qui s'appelait « L'habit ne fait pas le moine ». Donc, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les vrais artistes n'ont pas besoin de se déguiser en artistes pour qu'on les prenne pour des artistes. S'ils sont bons, peu importe la manière dont ils sont habillés, leur œuvre leur confère immédiatement le statut d'artiste. S'ils sont mauvais, leur œuvre ne suffit généralement pas. Pour être bien sûr qu'ils ne passent pas pour un receveur des PTT qui montrerait les dessins de son fils de 5 ans, le mauvais artiste va se déguiser en artiste pour violer notre subconscient et forcer son statut d'artiste. Le chanteur va ouvrir négligemment sa chemise jusqu'au slip, se peindre les cheveux en rouge et mettre des boucles d'oreilles. tandis que le sculpteur va grossir, se laisser pousser la barbe et mettre un bandeau dans les cheveux. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait plus de critères pour sélectionner un bon tableau. Moi, je crois qu'on en tient un là, de critères. Si l'artiste ressemble à un artiste, laissez tomber, il y a des chances que ça soit de la merde. Par contre, s'il ressemble au receveur des PTT, allez-y, les yeux fermés, c'est du bon.
Excellent. Voilà.
Donc j'ai passé mon bac, si je reprends le parcours, et comme j'étais bon, en fait, quand tu fais aucun choix dans la vie et que tu es bon à l'école et que tu es premier de la classe, tu te retrouves à Normale Sup ou à Polytechnique. Donc moi, j'ai choisi Polytechnique parce que je ne me sentais pas de devenir enseignant par la suite. Et Polytechnique, c'était cool parce que t'es payé. Moi, je suis issu d'un milieu plutôt modeste. Mon père travaillait à la poste, ma mère travaillait pas. Et donc, j'avais besoin de gagner de l'argent. Donc là, Polytechnique, c'était vraiment super. J'étais nourri, logé, blanchi et ensuite payé parce qu'on a une solde d'officier. Et cerise sur le gâteau, il y a un studio d'enregistrement qui est vraiment bien, en plus, qui était bien équipé avec pas mal de matériel. Et donc, pendant les deux années que j'ai passé à Polytechnique, parce que la première année, on fait son service militaire, mais les deux années suivantes, j'ai passé mon temps à faire de la musique. Donc, j'ai créé un groupe à l'époque qui s'appelait Scénario, qui était un groupe étudiant, donc avec que des polytechniciens. Et pendant deux ans, je n'ai fait que ça, faire de la musique, nourri, logé, blanchi, en me disant, j'ai deux ans pour réussir à percer dans ma carrière de musicien. Et on a fait pas mal de concerts à l'époque, on a tourné dans les grandes écoles, alors ça restait quand même dans les milieux universitaires, quoi. Et on envoyait les cassettes aux maisons de disques, mais il ne s'est jamais rien passé, malheureusement. Et le truc le mieux qu'on a fait, c'est qu'on a fait la première partie de Stéphane Eicher en 84, voilà, une fois. Mais après, le Polytechnique s'est terminé et malheureusement, il n'y avait pas de maison de disques. Et donc, j'ai dû me résoudre à travailler et à devenir consultant en télécommunications. Et voilà. Et après, juste avant d'être consultant, après Polytechnique, j'ai fait une école d'application qui s'appelle Télécom Paris. Donc, je me suis spécialisé dans les télécommunications. Et là aussi, il y avait un groupe qui s'appelait SAF, qui était un groupe de pop africaine. Le chanteur était sénégalais, il écrivait en wolof. Son frère était bassiste. Et après, les trois autres membres du groupe, c'était plutôt des Européens. Mais un peu quand même melting pot. Il y avait un Italien, il y avait un Belge. Et puis, il leur manquait quelqu'un au clavier. Et donc, j'ai été le clavier de ce groupe. Et en fait, ce groupe a pas mal marché. Puisqu'en 91, on a été numéro 1 au Sénégal, et avec une chanson qui s'appelait Gorgui, un clip qui a été tourné sur place à Dakar avec le danseur de Youssou N'Dour, qui s'appelait Gallo. Et le clip a bien marché, la chanson est passée à la radio très vite, le clip passait à la télé, et à la fin, ça s'est même terminé par un reportage de 20 minutes sur le groupe au journal télévisé de 20h. Voilà. Et moi, j'ai vécu tout ça par procuration, parce que j'ai jamais mis les pieds au Sénégal. C'est juste le chanteur et son frère qui ont fait toute la promotion et qui ont vécu ça. Et Keba, donc c'était le chanteur du groupe, me racontait que lui, il ne pouvait plus rentrer chez lui le soir. Il y avait une foule de fans qui attendaient devant chez lui. Il était obligé d'aller dormir ailleurs. Voilà. Et juste pour la petite histoire, quelques années plus tard, quand j'ai créé ma société Citycom, une société de conseil en télécom, j'ai fait passer un entretien d'embauche à un jeune Sénégalais, qui était polytechnicien aussi. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui demander à la fin, mais tu connais le groupe SAF ? Et il me dit, ah oui, SAF, bien sûr, je connais, tout ça, c'est ça. Et je lui dis, mais tu sais que c'est moi qui étais au clavier du groupe SAF ? Là, il me regarde comme si c'était incroyable et impossible. Et le premier jour où il a travaillé, il m'a offert une cassette piratée de mon propre groupe.
Excellent. Voilà. On réécoute un morceau de musique, si tu veux.
D'accord.
Et la morale, et c'est tout le système qui perd les pédales.
Et donc, la chaleur est montée dans le studio. Nous sommes en train de danser sur la table. Et nous étions en 91. Et quoi d'autre après ?
Eh ben donc après donc j'ai comme ça ne marchait pas malgré les choses que j'ai racontées, on n'a jamais trouvé de maison de disques, y compris pour SAF en France. Et donc je me suis résolu à travailler. Et j'ai un peu abandonné la musique. Et pendant une dizaine d'années, enfin pendant 4 ans d'abord, j'ai travaillé comme consultant télécommunication dans une grosse SS2I informatique. Et là j'étais assez malheureux. J'étais vraiment pas très heureux. J'avais pas l'impression d'être à ma place. Je m'entendais pas hyper bien avec ma hiérarchie au-dessus de moi. Et voilà, donc j'étais un peu malheureux. J'ai passé même une année quasiment à rien faire. Et au bout de 4 ans, j'ai donné ma démission, j'ai créé ma boîte. Et donc j'ai créé une boîte de conseil en télécom. J'ai eu beaucoup de chance parce que les télécoms étaient en pleine ascension. Et donc j'ai profité un peu d'un mouvement qui m'a permis finalement j'ai démarré déjà avec des clients, ce qui est très important quand tu démarres une boîte. Et j'étais associé avec 2 autres personnes, donc j'étais pas tout seul. Et ça s'est vraiment très bien passé. On est passé de 3 personnes au démarrage à 50 personnes au bout d'un an ou deux. Et quand j'ai revendu cette société 9 ans plus tard, on était 450. Et donc voilà, donc pendant tout ce temps-là, je faisais plus de musique, j'avais complètement arrêté. Mais je me suis aussi épanoui parce que j'ai découvert d'autres possibilités chez moi, finalement, qui étaient de diriger une entreprise. J'étais le PDG de l'entreprise. Il y a un des associés qui est parti, l'autre qui a un peu arrêté de tout faire. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé un peu tout seul aux manettes. Et, enfin, pas tout seul, on était 2. Et on est rentré en bourse, ce qui a été une grosse expérience aussi. Et il faut savoir que j'avais, moi, la phobie de la parole en public. J'étais incapable de prendre la parole en public, ce qui est quand même pas... Donc c'est pas, ça facilite pas les choses. Et c'est quelque chose que j'ai dû surmonter, travailler, etc., etc. Donc quand même si c'était quelque chose qui était très éloigné d'une vie d'artiste, ça m'a quand même épanoui. C'est une période que je regrette pas. Et ça m'a en plus donné le confort matériel, ce qui est quand même quelque chose d'important, parce que finalement j'avais résolu mon premier problème, qui était de gagner de l'argent pour échapper à l'esclavagisme du travail. Donc ça y est, j'avais échappé à cet esclavagisme. Donc maintenant, je pouvais faire artiste si je voulais. J'avais 37 ans quand j'ai revendu ma boîte. Et là, j'ai fait une erreur, je pense, avec le recul. J'aurais dû refaire de la musique tout de suite, qui était vraiment ma passion. Et je me suis trouvé trop vieux. 37 ans, je me suis dit, c'est trop vieux pour faire de la musique. La musique, c'est un art de la jeunesse. Moi, tous les groupes que j'écoutais, ils avaient tous 20, 25, 30 ans. David Bowie, dont j'étais hyper fan, à partir de 37 ans, il a vraiment fait que de la merde, selon moi, sauf peut-être le dernier album, le tout dernier. Et donc, alors qu'il avait une décennie fantastique entre 28 et 37 ans. Donc moi, je me suis dit, je suis trop vieux. En plus, j'avais perdu mes cheveux. Donc je me suis dit, c'est plus possible, je suis chauve, je peux pas être chanteur rock, quoi, c'est pas possible. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire du cinéma, parce que j'étais aussi assez cinéphile, hein, je faisais partie du ciné-club de Polytechnique, par exemple. J'avais été marié avec une comédienne, donc j'avais un peu fréquenté le milieu. Et je me suis dit, je vais écrire des scénarios, et puis je vais produire des films. C'est pas très éloigné, finalement, la production d'un film, de gérer un projet. Hein. Il y a des jambes, il y a un budget, donc il faut gérer un projet. Donc c'est quelque chose que je sais faire. Donc ça va être une étape pour moi pour refaire du cinéma. Donc j'ai commencé par produire des courts-métrages. J'ai réalisé moi-même quelques courts-métrages. J'ai eu la chance d'avoir un court-métrage qui a été nommé au César, qui a même été présélectionné aux Oscars. Et là, j'ai juste une petite anecdote. Parce que donc j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Schéma directeur, et donc j'écris le scénario et j'essaye d'avoir une subvention du CNC. Parce que évidemment, le milieu du cinéma, c'est extrêmement subventionné, il n'y a pas d'argent à part les subventions, surtout pour les courts-métrages. Et donc j'envoie mon scénario avec mon CV au CNC. Puis là, je reçois un coup de fil d'un membre qui était dans la commission et qui me dit « Bonjour, il faudrait qu'on se voit parce que votre projet n'a pas pu passer au second tour, mais j'ai obtenu la possibilité que vous le représentiez et je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous modifiez dans le projet pour que ça passe au second tour. » Je dis « Ouais, déjà super, sympa, le gars me rappelle et tout. » Donc je le vois, je prends un papier, un crayon et j'attends de voir ce qu'il faut que je modifie dans le scénario, qu'est-ce qui ne va pas. Et il commence à me dire « Non, le scénario, ça va, hein, c'est très bien, n'y touchez pas, c'est votre CV. » Il va falloir modifier des choses. Arrêtez de dire vous avez fait Polytechnique, ça énerve tout le monde. Et votre parcours de PDG, bourse, revente de la boîte, il faut surtout pas parler de ça. Mettez que des trucs artistiques dans votre CV. Parce que les deux autres personnes avec qui j'étais ont jugé que vraiment vous n'étiez pas un artiste si vous avez fait ce parcours et que c'est... en plus, vous piquez des subventions alors que vous avez l'air d'avoir des moyens, donc ça va pas du tout. Donc j'ai suivi ces conseils, j'ai fait un nouveau CV où ma vie démarrait à 40 ans, hein, quelque part. J'avais rien fait avant, j'ai juste mis les cours de piano, j'avais pris des cours de théâtre aussi, c'était ça ma formation. Et mon projet est passé au second tour. Voilà.
Belle histoire.
Donc voilà, le cinéma, ça m'a procuré quand même pas mal de joie. Quand j'ai fait donc mon court-métrage suivant qui s'appelait « Je pourrais être votre grand-mère », parce que le court-métrage d'avant chez ma directeur, il a quand même eu le Grand Prix Unifrance, et c'est ça qui m'a permis de faire le suivant, parce qu'il a été acheté par France 3. Et France 3 m'a préfinancé le court-métrage suivant qui s'appelait « Je pourrais être votre grand-mère », et c'est celui-là qui a vraiment très très bien marché. Il a eu beaucoup beaucoup de prix dans les festivals, et c'est celui-là qui a été nommé au César. Donc à ce moment-là, j'étais un peu plus, on va dire, j'étais pris au sérieux comme réalisateur dans le milieu du cinéma. Et je me suis lancé dans mon premier long, parenthèse, dont je parle dans la première chanson BT93, hein. J'en profite pour faire la pub de mon film dans la chanson. Et parenthèse, j'ai fait un film qui n'était pas du tout celui que j'aurais dû faire, je pense, si j'avais voulu vraiment faire carrière dans le cinéma, parce qu'il aurait fallu que je continue dans la veine de mes courts-métrages, qui étaient un peu des courts-métrages sociaux, des comédies sociales, on va dire. Donc ça marchait très bien. Et là, j'ai fait, j'ai fait une comédie pure, sociétale, où il n'y avait rien de social. Et je pense que c'était... Voilà. Donc j'ai voulu faire un peu le genre de film que le cinéma d'auteur français rejette habituellement. Donc une pure comédie, une bande de potes. Voilà. Et c'était en plus un film qui parlait, dont le thème était le sentiment de vieillir. Et pour ça, j'avais mis en scène un groupe d'amis, trois amis qui avaient passé la cinquantaine avec des filles beaucoup plus jeunes. Déjà, on était en période pré-MeToo, c'était limite à ce genre de thème. Et même si mon distributeur, j'ai eu un très bon distributeur, qui est Jour de Fête, un très bon distributeur de cinéma d'auteur, il a reçu des lettres d'insultes. Il m'a dit, c'est la première fois que ça arrive. Il a reçu des lettres d'insultes de différents... exploitants dans le cinéma d'art et d'essai, de programmateurs de festivals, etc., etc. Donc le film, malheureusement, n'a pas eu une grande carrière. Il est sorti un peu en catimini, en plein été. Et voilà. Mais pourtant, comme je le dis dans la chanson, c'est un bon film, hein, je vous le recommande. Il ne faut pas hésiter à le voir. Il est en VOD hein, sur toutes les plateformes.
Magnifique. On écoute un petit morceau de musique, si tu veux bien.
Dirigeants d'entreprises, plus que jamais broyés par le quotidien, sont-ils condamnés à prendre des décisions comme des âmes saoules? Les entreprises sont-elles dorénavant destinées à faire figure de navires ballottés par des éléments déchaînés et incontrôlables, tandis que l'équipage hésite entre l'incantation et la rixe fratricide? J.L. Bauer, Managing the Resource Allocation Process, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1970. Référence. Après la mise au placard des outils scientifiques de planification et de gestion, la seule planche de salut pour les timoniers désorientés réside-t-elle dans l'application du slogan des pourfendeurs de rationalité à la recherche de l'excellence? KISS, K-I-S-S, keep it simple, stupid. Michael Porter, choix stratégique et concurrence, Economica 1982. Référence, Mintzberg, structure et dynamique des organisations, Paris 1982. Référence. Face à cet apparent bouleversement dans la considération portée à la pensée formalisée en matière de gestion, bouleversement qui a souvent fait dire que désormais le roi était nu, Cette chanson peut être entendue comme un plaidoyer pour un usage raisonnable du ki relevant d'une nouvelle rationalité. Abernathy on Wayne, Limits of the Learning Curve, Harvard Business Review, septembre-octobre 1974, référence.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc nous sommes effectivement sur Aligre FM 93.1 et j'en profite pendant que j'y pense pour remercier Axel Aubry et Amazir Amadaïne Guess qui sont de l'autre côté de la vitre. Merci à vous. Et donc voilà, alors référence, vas-y.
Oui, donc ça c'est une chanson de mon premier album BT 93 qui est sorti en 2020. Et pour la petite histoire, le texte, c'est le début de la thèse de mon frère, mot pour mot quasiment. J'ai juste remplacé à la fin cette thèse par la chanson. Voilà. Et comme dans le cinéma, je n'ai pas eu un succès phénoménal avec le film Parenthèse. Et d'autre part, j'ai eu des occasions de revenir un peu dans la musique. J'ai la comédienne, une des comédiennes qui jouait dans mon film qui s'appelle Sophie Verbeek, m'a sollicité pour faire des chansons parce qu'elle voulait, elle avait des velléités de chanter et d'écrire des textes. Et donc on a créé un groupe qui s'appelle Hum, et où je composais les musiques et elle chantait, écrivait les textes et chantait. Et qui a eu un petit succès, qui a été produit. Enfin, le premier EP a été produit par Frédéric Lowe, qui est quelqu'un qui avait ressuscité Daniel Darc à une époque, et là qui fait une tournée avec Pete Doherty des Libertines. Voilà. Et puis, donc, suite à ça, je me suis dit, j'aimerais bien quand même ressusciter mes chansons que j'avais écrites à l'époque, dans les années 90, hein, quand j'étais un jeune youpie, costard-cravate, travaillant à la Défense. Et c'est pourquoi j'ai créé ce personnage de BT 93. BT 93, BT, Bernard Tanguy, c'est moi, c'est mes initiales. 93, c'est l'année 1993, où j'avais fait un petit EP qui s'appelait La Hiérarchie Chi, et qui racontait un peu mes déboires dans la vie active de salarié bureautisé. Et donc j'ai sorti cet album, donc BT 93, en 2020, avec un petit coup de main aussi de Frédéric Lowe encore. Et donc, c'est que des chansons qui avaient été composées entre 89 et 94 sur le monde du travail. Et je suis devenu un petit peu comme ça, je suis le chanteur des cols blancs, quoi, quelque part. Quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'avais fait ces chansons, donc en 1993, La Hiérarchie Chi, je me suis aperçu qu'il y avait un groupe de fans, en fait, qui me suivaient, qui passaient les chansons dans les soirées, tout ça. Quand je dis un groupe de fans, c'est vraiment un tout petit groupe, hein, genre ils étaient quand même une quinzaine ou une vingtaine. Et c'était des gens qui étaient consultants en stratégie, dans des boîtes et tout ça. Donc c'était vraiment les cols blancs, quoi, qui aimaient les chansons parce que ça leur parlait, ça parlait de leur vie, quelque part. Et si on y réfléchit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la vie des cols blancs, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, finalement, qui ont été cols blancs également, quoi. Voilà, et donc j'ai décidé de faire d'autres chansons, et donc j'ai ce nouvel album, BT 2033, qui va sortir le 27 janvier, et qui, pareil, donc c'est aussi des chansons qui parlent du travail, mais aussi quelques chansons qui parlent du milieu du cinéma. Comme j'ai passé quand même une dizaine d'années dans ce milieu, j'avais aussi des choses à dire, voilà.
Tu veux qu'on réécoute un morceau de musique ?
Allons-y. Ouais, ouais.
On va réécouter un dernier morceau de musique.
chuter au poste de PD. Je mène ma barque à défaut de manager. Endetté et sans fonds propres, j'avoue, cette société n'est pas au top. Licenciant dans mes usines, et hop, je ferai la une des magazines. Virer c'est pas si facile, et oh, faudrait pas me prendre pour un imbécile. J'ai les meilleurs consultants, ça fait 2 ans qu'ils sont 10 à plein temps. Je suis un énarque, parachuté au poste de grand PD. Je mène ma barque à défaut de manager mon secteur d'activité. Coulé, si j'avais su, je l'aurais évité. J'ai fait mes classes au ministère. Quand on sait rien, il ne faut surtout pas se taire. Entreprise, service public, moi je me sers et la promo réplique. On s'occupe de ma carrière, pas flou, les petits cadeaux, ça date pas d'hier.
FM 93.1.
Et donc tout ça est passionnant, donc on approche la fin de l'émission. Dis-nous ce qu'il reste à dire, si tu peux, l'essentiel.
Ouais, juste sur cette chanson-là qu'on vient d'écouter, qui s'appelle « L'Énarque ». Je remercie vraiment les énarques d'exister parce qu'ils ont, ils ont pris sur eux toute la haine que les gens éprouvent pour les élites. Et ça, ça, comme moi, en tant que polytechnicien, je suis un peu moins atteint grâce à eux, quoi. Sinon, alors, tout à l'heure, on a parlé un peu de qu'est-ce qu'est un artiste, du rôle de l'artiste. Et moi, je me suis toujours un peu posé la question. Pour moi, il y a plusieurs types d'artistes. Tu parlais tout à l'heure des artistes qui sont un peu dans leur époque, des artistes visionnaires, qui sont capables de capter une certaine essence du moment, qui vont contribuer à faire évoluer les mentalités ou le contexte artistique en général. Et je pense que c'est des artistes qu'on va dire qui sont à la mode, hein, qui sont dans le mouvement. Et je pense qu'il y a une deuxième catégorie d'artistes, des artistes plus, j'appellerais, universels, c'est-à-dire qui sont complètement décontextualisés de l'époque et qui sont plus dans une recherche d'absolu. Et ces gens-là sont généralement moins politisés, moins à la mode. Et c'est un peu comme si, par exemple, Beethoven vivait au XXIe siècle et qu'il composait sa 7e symphonie aujourd'hui. Alors, personne dirait qu'il est vraiment très tendance au niveau du style. Mais par contre, on ne pourrait pas dire non plus que la 7e symphonie, ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi personne ne fait plus de musique classique aujourd'hui alors qu'il y a tellement de gens qui écoutent de la musique classique? Et dans la musique, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, la musique est très liée aux mathématiques. Et quand j'étais à Polytechnique, j'ai été assez frappé par le fait que, bon, moi je faisais de la musique, mais je n'étais pas le seul. Il y avait vraiment quasiment presque la moitié de la promo qui était musicien, et certains qui ont fait des carrières plus tard de chef d'orchestre et tout ça. Donc, je pense pour moi que les maths et la musique sont assez connectés. Et d'ailleurs, si on peut prendre n'importe quel morceau de musique, sauf les musiques atonales et tout ça, mais on peut les décomposer si on les joue au piano, par exemple, le morceau, on peut les décomposer en des accords à la main gauche et une ligne mélodique à la main droite. D'ailleurs, quand on dépose un morceau à la SACEM, c'est ça qu'on nous demande, hein, on nous demande les accords et la ligne mélodique, il faut rajouter à ça un rythme. Et ces trois choses-là forment ce que j'appellerais un composé mathématique de la chanson. Quand, par exemple, il y a des affaires de plagiat, ce qu'on compare, c'est ça. On va comparer les lignes mélodiques, on va comparer les accords, le rythme, etc. Donc, c'est vraiment... On peut mathématiser, quelque part, un peu les chansons. Et il y avait un philosophe qui s'appelle Leibniz qui disait que la musique, c'est de l'arithmétique inconsciente. Et moi, je crois que c'est assez vrai, quoi. Après, si on voulait pousser le truc encore plus loin, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a des nombres qui sont plus jolis que d'autres ? Et en fait, oui, il y a des nombres qui sont plus jolis que d'autres. Il y a des nombres qu'on appelle les nombres parfaits, il y a le nombre d'or, etc. Voilà, c'est une petite digression sur le rapport entre les maths et la musique. Il y a une autre chose dont je voulais parler, c'est tout à l'heure, on a passé la chanson qui s'appelait Les Altruistes, où je dis, à un moment donné, tu la sens, la chape de plomb, fabrique de l'inapproprié, etc. Donc on pourrait penser, oulala, BT93 est devenu réac. Et je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue ensemble, où moi, quand j'étais jeune, la provoque était de gauche. Moi, j'ai toujours été de gauche, hein, j'ai voté socialiste, hein, toute ma vie. Et aujourd'hui, on se disait que la provoque est plutôt quelque chose de droite, malheureusement, quoi. Et donc, dans cette chanson, je dis un peu qu'il y a une espèce de chape de plomb. C'est quelque chose d'un peu réac que je dis. Et on pourrait s'imaginer que je ne suis pas du tout woke, etc. En fait, ce n'est pas vrai. Moi, je suis plutôt woke, en général, parce que même s'il y a des abus sur le wokisme, ça part quand même de problèmes qui sont réels, qui sont d'ordre 1, pour moi, hein, le racisme, le sexisme, etc. Donc moi, je suis à 100% woke. Évidemment, s'il y a des petits dérapages, dans toute nouvelle pensée, il y a toujours des dérapages. Voilà. Donc il peut y avoir des dérapages, mais il faut quand même en rester au problème d'ordre 1. Quoi.
D'accord. Écoute, je te remercie d'être venu. C'était passionnant. On pourrait faire même plusieurs émissions. Tu as bossé, t'as un vrai sujet, une vraie originalité.
Merci.
T'as une expérience de vie qui est la tienne et qui n'est pas courante dans ce genre de domaine, enfin quand on produit de la musique évidemment, ou du cinéma. Et maintenant nous allons passer bientôt à cause commune. Merci d'être venu et repasse quand tu veux.
Ben, merci.